I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Dans ce 17e épisode, je reçois Sophie. Pendant un long moment, Sophie ne désirait pas avoir d'enfant par choix d'indépendance. Puis, elle a changé d'avis et a donc eu une grossesse tardive. Dans cet épisode, elle nous parle de son regard sur la maternité, du voyage qui a bouleversé sa vie, de son accouchement naturel et de sa vie de maman à 40 ans. Bonne écoute!
Bonjour Sophie, merci beaucoup de partager ton histoire dans Le Tourbillon.
Coucou Shane.
Alors, tu es en couple depuis très longtemps. Ça fait combien de temps que tu es en couple, toi?
Écoute, je ne compte plus les années. Ça fait, ça fait plus de 15 ans, ça fait presque 20, je crois.
Et alors, pendant des années, tu ne voulais pas d'enfant?
C'est ça. Alors, moi, effectivement, j'ai pas eu ce désir d'enfant comme l'ont eu, en fait, la plupart de mes amis. Et c'est vrai que mon compagnon et moi, on était un couple un peu à part. Disons que quand on était avec nos amis, les gens osent pas trop te parler, en fait, de ça. C'est-à-dire que t'es différent, du coup tu sens qu'il y a un peu un regard un peu étrange, mais la question est jamais abordée ouvertement. Avec notre famille, pareil, ils ont, bon, ceci dit, je les remercie pour ça, tu vois, c'est quelque chose de, enfin, ils ont respecté cette absence de désir, et c'est, bon, on nous posait pas trop la question, mais bon, quand même, de temps en temps, sous-jacent, ou bien la remarque peut venir de quelqu'un d'autre. Tiens, ta maman m'a dit que... Voilà. Et donc, en fait, jusqu'à environ 35 ans, j'ai pas eu ce désir.
Quel regard tu avais sur la maternité?
En fait, moi, les femmes enceintes, j'avais pas envie de les regarder. Et comme, en fait, elles me faisaient presque peur. En fait, je n'aimais pas regarder les femmes enceintes. En fait, quand je détournais le regard dans la rue, c'est un peu... Voilà, aujourd'hui, je te parle vraiment sans filtre. J'aimais pas regarder. J'ai jamais eu cette fibre de vouloir prendre un bébé dans mes bras. Enfin, je peux pas dire que c'est une peur, mais j'avais pas envie. Je ressentais pas cette envie de... Voilà, de prendre un bébé dans mes bras, un enfant, de le cajoler. Voilà. Après, c'est vrai que ça vient probablement de mon histoire personnelle. Donc moi, j'ai perdu mon papa assez jeune. Je l'ai perdu quand j'avais 8 ans. J'ai eu une mère qui travaillait pas à l'époque, donc qui a dû vraiment... moi je suis hyper admirative de ce qu'elle a fait. Elle a repris ses études, elle a retrouvé du travail pour nous élever, mon frère et moi. Et donc c'était une femme qui était vraiment dans l'action, et à la fois dans l'action et à la fois, je dirais, dans cette volonté de s'en sortir à tout prix, et dans cette volonté d'indépendance. Et je pense, parce que c'est un truc auquel j'ai longtemps repensé, parce que c'est vrai que je me suis posé des questions, mais Pourquoi ce désir n'est pas venu avant, enfin, et qu'est-ce qui fait que tu avais un blocage? Et c'est vrai que moi, dans ma vie, j'ai mis en place aussi ces espèces de stratégies pour vraiment être totalement indépendante, pour ne pouvoir compter que sur moi. C'est-à-dire que j'étais en couple depuis très longtemps, mais mon compagnon et moi, on avait notre indépendance, on gérait tout de façon séparée. Et donc, je pense que ça a joué, si tu veux. Donc, parce que forcément, quand t'as un enfant, l'indépendance et le fait de ne compter plus que sur soi n'existe plus. Enfin, t'as un autre être dont tu dois prendre soin, et en général, c'est souvent à deux. Donc t'es lié indéfectiblement à la personne avec qui tu lui as donné naissance. Donc je pense que c'est venu de là.
Et du coup, tu parlais de tes amis. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es sentie un peu, pas à l'écart, mais où tu as vu qu'il y avait un petit fossé qui se creusait avec ceux peut-être qui devenaient parents ?
Ouais. En fait, c'est surtout... c'est marrant parce que, donc mon compagnon est un petit peu plus âgé que moi. On a 7 ans d'écart, mais comme on s'est connus très tôt, moi, j'étais encore étudiante et lui, il était déjà dans la vie active. Donc déjà, on avait un décalage par rapport à ses amis. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment la petite jeune. On me regardait vraiment comme... la petite jeunette... Donc déjà, il y avait ce décalage. Et après, donc quand on a eu plus la trentaine, c'est vrai qu'il y avait un décalage dans les conversations, principalement, parce que quand on allait dans les dîners, ça parlait bébé, ça parlait enfant, souvent, moi, je ressortais. Je sais pas si mes amis m'écouteront, mais c'est vrai que souvent, je ressortais de la soirée, je disais, c'était vraiment super passionnant, quoi. On a parlé nounou, bébé, toute la soirée, et c'est vrai qu'on se sent un peu à part, et on se sent un peu à l'écart. C'est un peu dur à vivre. En même temps, moi, c'était mon choix, donc oui, je dirais que la distance, peut-être, c'était surtout au niveau des conversations. Tes amis, ils ont des enfants, donc on fait plus des choses, ça va plus devenir des brunchs et des déjeuners que des dîners en soirée. Ça, parfois, nous aussi, ça nous énervait un peu. Mais non, à part ça, ça va.
Et au sein même de ton couple, ton chéri, lui, il voulait pas d'enfants
En fait, c'est pas qu'il en voulait pas, je pense que c'est qu'il respectait mon désir.
Il n'y a jamais eu de conflit à ce
non,
sujet.
Il n'y a jamais eu de conflit, et ça, je lui en suis extrêmement reconnaissante. C'est qu'il a toujours accepté cela, et les choses se sont faites naturellement après, quand vraiment ce désir est venu chez moi. Mais ouais, il y a toujours eu un respect de sa part.
Et alors, à quel moment s'est fait le changement
Je sais pas pourquoi il y a eu un changement. Enfin, peut-être c'est les hormones qui parlent au bout d'un moment. Elles ont mis un petit peu de temps à se réveiller chez moi. Parce que c'est vers 35 ans, en fait, que ce désir est arrivé. Même un petit peu... Ouais, je pense autour de 35 ans. J'ai pas identifié, en fait, ce qui avait provoqué le changement et l'envie. Mais en tout cas, le désir est venu.
Et comment tu l'as...
Thanks God.
Comment tu l'as vécu quand ce désir est apparu ? Est-ce que tu as eu peur ? Est-ce que tu t'es...
Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à essayer d'avoir ce bébé, et puis il n'est pas venu tout de suite. Et ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure, un truc dont on te parle jamais, c'est qu'en fait. Toi, t'as l'impression qu'avoir un enfant, on peut avoir... En fait, aujourd'hui, je trouve que la société, et enfin, ce que nous renvoie peut-être aussi même les médias, c'est qu'on peut avoir un enfant à n'importe quel âge. Parce qu'on voit toutes ces stars qui ont des enfants à 40 ans, à 45 ans, voire même plus tard. Mais en fait, toi, quand tu arrives dans le processus, quand tu commences à voir les médecins, les gynécos, tout le monde t'explique à partir, je sais plus, je crois que c'est 25 ans, ta fertilité décline. Et là, tu te dis, mais... Pourquoi on me l'a jamais dit? Au rage, au désespoir. Enfin, donc c'est vrai que rapidement, je me suis dit, oh là là, mais moi je savais pas tout ça. Enfin, j'avais aucune idée du fait que à 35 ans, on est vachement moins fertile, et que à 40, ça devient carrément une grossesse à risque. C'est-à-dire que moi j'ai été considérée comme une grossesse à risque, même si je n'ai eu aucun problème pendant ma grossesse. J'étais identifiée de cette façon-là parce qu'elle était tardive. Donc, et ça, c'est un truc dont on ne parle pas, en fait. Je veux le dire aux femmes aujourd'hui, si vous avez envie d'avoir des enfants, ne tardez pas. Parce qu'après, c'est plus dur.
Et comment tu l'as annoncé à ton conjoint que... Enfin, tu te souviens de ce moment-là où t'as...
Non, en fait, je pense pas qu'il y ait eu un moment. Enfin, ça s'est fait... Ça s'est fait naturellement. Moi, je suis assez pudique par rapport à ces questions-là. Et voilà, j'ai pas de moment en tête où on a évoqué cette question. Mais
Et donc, alors, combien de temps ça a pris pour que tu tombes enceinte ?
Bah, en fait, c'est pas venu tout de suite parce que, bah, comme je te le disais, la fertilité décline. Donc, ouais. À 35 ans déjà, je pense que c'est moins facile. Puis après, ça dépend de chaque femme et de chaque homme, hein, parce qu'il y a les deux qui rentrent en compte. Mais enfin, en général, c'est vrai que c'est plutôt la fertilité féminine qui décline avec l'âge. Ouais. Donc, ça a pris quand même, ça a pris du temps. Et puis... Moi, je m'inquiétais pas trop, en fait. J'étais au départ, hein, j'étais assez confiante. Je me disais que de toute façon, ça allait marcher. Donc, je me suis pas trop stressée pendant, on va dire, je sais pas, 2-3 ans, en fait. Ouais. Alors que souvent, on dit qu'au bout de 2 ans, quand ça fonctionne pas, il faut tout de suite rentrer dans une série d'examens, etc. Moi, ça n'a pas été le cas. Enfin, voilà, je m'inquiétais pas. Je me disais que ça allait venir. Et puis, la grossesse est venue. Donc, on va dire, je pense, 2-3 ans après. Ouais, 3 ans, je pense. Après, le moment où je m'étais dit que j'avais envie. Mais malheureusement, la grossesse n'a pas tenu et j'ai fait une fausse couche, en fait.
D'accord.
Voilà. Et là, c'est vrai que, là encore, il y a tellement de choses qu'on ne dit pas, en fait, sur la maternité. Mais pour moi, ça a été un gros choc. Un gros choc psychologique. Parce qu'en fait, c'était une telle joie que bah, le fait de faire cette fausse couche, je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, je n'avais même pas envisagé la possibilité.
C'était tôt dans le process
C'était au bout d'un mois et demi, donc ouais. C'était, on va dire, au début. Hein. C'était une fausse couche précoce. Mais ça a été extrêmement dur à vivre. Et surtout, je trouve que ce qui est difficile, c'est que on n'a aucun soutien psychologique, si ce n'est celui de son compagnon, parce qu'il le savait et je lui avais dit. Mais c'est quelque chose... moi, je n'ai pas osé en parler autour de moi, ni à ma famille, ni même à ma mère. Et je me suis ressentie très seule, en fait, à ce moment-là. Et donc, c'était une période très difficile à vivre. Parce que j'avais tellement attendu cette grossesse, le fait que... Bah, voilà, qu'elle ne se poursuive pas, ça a été vraiment compliqué à vivre. Et là, dans ma vie personnelle et professionnelle, parce que enfin, ça a retenti aussi, je pense, sur ma vie professionnelle, mais j'ai commencé vraiment à être... ça a été le début un peu de ma... Enfin, j'ai commencé à sombrer, voilà. Psychologiquement, ça a été très dur.
Tu faisais quoi à ce moment-là?
Donc, à ce moment-là, je m'occupais du marketing dans une filiale d'un grand groupe dans le domaine du marché de l'art. Et donc, j'avais un job très prenant. Hein. Je travaillais pour la France et pour l'international. Je me déplaçais beaucoup. J'avais beaucoup d'événementiel. Donc j'avais un travail qui était très chronophage, on va dire, dans lequel je m'investissais beaucoup, parce que c'est vrai que la contrepartie aussi de ne pas avoir d'enfant, enfin je ne sais pas si c'est une contrepartie, c'est que moi, jusqu'à ce moment-là, je pensais qu'à ma vie professionnelle. Enfin, il y avait la vie personnelle qui se passait très bien, parce qu'avec mon compagnon, on était un couple très fort et très uni. Mais c'est vrai que ma vie était tournée vers ma vie professionnelle. Je pensais pas à autre chose. Donc, elle était extrêmement chronophage. Et j'avais beaucoup de mal, d'ailleurs, à comprendre ces femmes qui avaient des enfants, qui devaient partir tôt du travail. Enfin, ça, c'était un truc. Je comprenais pas. Ça dépassait totalement mon entendement. Je manquais totalement d'empathie pour ces femmes. Je dis ça en rigolant aujourd'hui parce que...
Parce que t'as compris.
Voilà, j'ai compris.
Et alors, cette période creuse, justement, où tu sombres un petit peu, comme tu dis, comment t'as fait pour remonter
Donc, voilà, c'est donc psychologiquement très difficile. J'ai un job à ce moment-là qui... je pense que c'est les deux. Enfin, tu vois, cette grossesse qui se poursuit pas, ça retentit sur ton travail parce que, bah, forcément, j'avais imaginé plein de choses, j'avais fait déjà plein de projets dans ma tête, et donc au travail, ça devient difficile. J'ai moins d'énergie, et puis je prends la décision à ce moment-là de faire un grand voyage, alors pas un long voyage, mais un grand voyage, de partir en Argentine. En fait, c'était un voyage qui me trottait dans la tête depuis plusieurs années, puisque j'avais une très très bonne amie qui vit là-bas et qui a fait sa vie en fait sur place. Mmh. Et qui, depuis longtemps, me disait « Mais Sophie, viens me voir ». On se voyait, je dirais, régulièrement, une fois par an, une fois tous les deux ans, mais... Elle me sollicitait très régulièrement pour venir la voir. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bah, c'est le moment. Probablement parce que j'avais tellement atteint le fond du trou. J'avais besoin de me changer les idées. Et je me suis dit que bon, j'ai toujours aimé voyager. On voyageait peut-être un petit peu moins ces dernières années. Mmh. Avec mon compagnon, et je me suis dit, voilà, c'est le moment ou jamais. Comme j'étais aussi un peu moins impliquée, on va dire, dans ma vie professionnelle, je me suis dit, allez, on y va. Donc je prends la décision de partir au mois de février pour 3 semaines. Une semaine seule, et puis après, mon compagnon me rejoint pendant 2 semaines sur place. Donc, au travail, on me fait un peu la tête parce que, évidemment, c'est jamais le bon moment pour partir 3 semaines, ouais. Surtout en plein milieu de l'année, même si j'avais très bien anticipé les dossiers et tout ce qu'il faut. Mais je pars là-bas et là, gros bouleversement. Vraiment, c'est un bouleversement énorme dans ma tête parce que, en fait, c'est un pays incroyable. Enfin, j'ai jamais eu une aussi forte émotion à travers un voyage qu'en allant rencontrer ce pays. Il y avait plusieurs choses. Il y avait à la fois le fait de retrouver cette amie sur place qui, elle, a vraiment a mis en place cette liberté dans sa vie, c'est-à-dire que elle est indépendante, elle a monté son activité, elle vit seule avec son fils d'ailleurs, c'est une femme vraiment qui s'assume, enfin que j'admire énormément. Et puis en même temps, ce pays, c'est un pays, enfin moi qui m'a permis de me reconnecter vraiment avec la nature, c'est des grands espaces, voilà, on a été en Patagonie, t'as des paysages mais juste sublimes, je pense que j'ai jamais vu d'aussi beaux paysages de ma vie, et surtout t'as ce sentiment à la fois de te reconnecter avec la terre mais de te reconnecter avec toi-même, parce que c'est des espaces qui sont immenses et qui sont inhabités, donc tu ressens vraiment cette connexion. Donc vraiment ça a été un choc. Et quand je suis rentrée en fait en France après ce voyage, c'est vraiment ça a été comme une étape. Quand je le regarde en fait a posteriori, je me rends compte que ça a été une étape dans ma vie et que ça m'a permis vraiment de retrouver un élan, une énergie de vie en fait. Et cette énergie de vie, elle m'a permis de remonter la pente, elle m'a permis de reprendre ma vie en main. Donc là, je rentre en France en février et dans ma tête, tout change en fait. C'est comme si je me permettais, je ne sais pas comment dire ça, mais si moi aussi je me permettais de m'offrir cette liberté et de me détacher peut-être des carcans que j'avais. Et du coup, bon, parallèlement, j'ai commencé à mettre en place des examens pour voir si j'avais des problèmes particuliers pour avoir un enfant. Parce qu'en fait, il se trouve que quand j'ai fait cette fausse couche, donc on a mis en place des examens, on s'est rendu compte que j'avais un petit problème de santé, mais après on a aussi poursuivi pour voir s'il y avait d'autres choses, s'il y avait une problématique de fertilité. Et donc on est allé plus loin dans cette série d'examens. Et au moment où on allait rentrer dans la phase de PMA, en fait, hein, où, parce que effectivement, bon, bah, la fertilité n'était pas géniale ici, bon, on se rendait compte que j'avais eu donc, ce petit problème de santé qu'on avait réussi à réguler, mais bon, voilà.
Parce que là, il s'était écoulé combien de temps depuis ta fausse couche, vous
avez... En fait, je suis partie en Argentine juste quelques mois après la fausse couche. Ça s'est passé en fin d'année. En fin d'année, au mois de décembre, et je suis partie au mois de février. Voilà. Et en fait, la nouvelle grossesse est venue juste un an après. D'ailleurs, quand j'y repense, c'est assez drôle. Je pense que c'est pile un an, presque jour pour jour, en fait.
Un an après ?
Après être partie en Argentine.
D'accord.
Et avoir, comme je te dis, retrouvé ma liberté, en tout cas ma liberté intérieure.
Ouais.
Mais... donc il y a eu plein de choses qui se sont mises en place. Il y a eu un travail personnel que j'ai voulu faire sur moi parce que bah justement je sentais que mon histoire passée pesait sur moi, que ça m'enfermait, c'était des choses que je ressassais énormément. Comme je te disais, j'avais mis en place ce processus d'ultra-indépendance qui n'était pas quelque chose de naturel. Enfin, je veux dire, c'est bien de pouvoir s'assumer, mais c'est pas normal non plus d'être de le vivre à ce point-là, si tu veux, dans une indépendance aussi forte, surtout quand on est en couple depuis si longtemps. Donc j'ai travaillé là-dessus. Ça a été le moment aussi où j'ai décidé de refaire mon sourire. C'est pareil, je trouve que symboliquement, tu vois, c'est quelque chose d'assez fort. J'ai quand même longuement hésité, mais en fait, tout ça, en fait, c'était plein de choses, si tu veux, auxquelles je pensais depuis longtemps. Et il y a eu comme un déclic qui a fait que, hop, tout s'est débloqué, en fait, presque d'un coup.
Et alors, tu tombes enceinte ?
Donc, je tombe enceinte, je l'apprends. En fait, je l'ai su quasiment tout de suite. Ça aussi, c'est assez drôle. C'est pour chacune de mes grossesses, je l'ai senti quasiment tout de suite.
Mmh. Mais je l'ai senti. Sans même... faire le test, tu
oui.
disais.
Mais même, en fait, quelques jours après, en fait.
Ouais.
Il y avait comme une voix intérieure qui me disait que je le savais, mais véritablement, donc j'ai attendu un petit peu pour faire le test, on est toujours obligé d'attendre un petit peu, donc je l'ai su à 3 semaines, enfin, peut-être 3 semaines, 1 mois, j'ai fait le test, et je l'ai su, j'étais en voyage, je me rappelle, à l'étranger.
Pour le travail.
Oui, pour le travail. Et je me rappelle encore avoir regardé les résultats dans ma chambre d'hôtel sur mon iPad toute seule et d'avoir appelé mon compagnon folle de joie au téléphone pour lui annoncer la bonne nouvelle.
Et alors, comment s'est passée ta grossesse ?
J'ai eu une grossesse vraiment géniale.
Grossesse à 40 ans.
Oui. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu vraiment, j'étais très en forme du début jusqu'à la fin. Moi, je suis une grande pratiquante de yoga. Ça faisait plus de 15 ans que je pratiquais le yoga de façon assez intensive, parce que j'en faisais à l'époque, quand je n'avais pas d'enfant, j'arrivais à en faire 3-4 heures par semaine. Donc ça, je pense que ça m'a beaucoup aidée, hein, ça me tenait en forme. J'ai continué mes cours classiques, je pense jusqu'à 6 mois de grossesse, mais évidemment de façon adaptée. Et puis parallèlement, je suivais aussi des cours pour femmes enceintes. Et moi, je pratique le yoga Iyengar. Donc, on travaille en fait avec des supports. Ça peut être des briques, ça peut être des tapis, ça peut être des couvertures. Et donc, quand tu es enceinte, en fait, tu travailles beaucoup avec ces matériaux pour pouvoir adapter les postures et les faire de façon plus douce, plus adaptée pour une grossesse. Donc, vraiment, j'ai pu pratiquer jusqu'au dernier jour. Je me rappelle avoir accouché juste quelques jours après mon dernier cours. J'étais vraiment en pleine forme. J'ai eu quelques nausées au début de la grossesse qui étaient un peu désagréables, mais franchement, ça n'a pas duré très longtemps. La seule chose, j'ai eu un peu de la sciatique, mais je veux dire, je ne m'en souviens même pas parce que j'ai vécu dans un tel état d'euphorie. En plus, je trouve que cette période, elle est juste incroyable parce que quand c'est ton premier, tout est découverte. Et ça, pour moi, qui suis quelqu'un d'assez curieux et tout, j'avais envie de tout connaître, de me renseigner sur tout. Et puis, enfin voilà, tout est nouveau, en fait. Donc, c'est une source d'émerveillement. En fait, je trouve que tous les jours, tu découvres des choses, soit sur ton corps, soit sur voilà, la façon dont ça va se passer. Enfin, donc, oui, j'ai vraiment eu une grossesse extrêmement agréable. Et j'ai travaillé quasiment jusqu'au bout. Enfin, vraiment, ça s'est hyper bien passé.
Et alors toi, du coup, c'est un peu tout ou rien parce que tu es enceinte et tu optes pour l'accouchement naturel. Donc là, on ne peut pas être plus connecté à la maternité.
En fait, c'est quelque chose auquel j'ai pensé assez vite parce que ayant cet enfant à 40 ans, je me suis dit c'est le premier, mais peut-être ce sera le dernier. J'espère pas, voilà, mais on ne sait pas. Et puis on ne sait pas ce que la vie nous réserve. J'ai mis déjà beaucoup de temps à avoir cet enfant. Donc j'avais vraiment... En fait, j'avais envie de tout découvrir, j'avais envie de tout ressentir. Et donc très vite, je me suis dit, il va falloir que je trouve un lieu, un hôpital qui puisse me permettre de vivre ce moment vraiment pleinement. Donc j'ai commencé un petit peu à me renseigner. J'ai cherché un peu les structures qui pourraient m'accueillir. J'ai choisi donc un hôpital parisien qui me semblait assez ouvert d'esprit, dans lequel j'ai commencé à suivre les préparations à l'accouchement, où d'ailleurs j'ai fait de très belles rencontres, puisque j'ai rencontré des amis qui ont eu des enfants à quelques jours d'écart avec moi et avec qui vraiment on a noué des liens assez forts et avec qui je suis toujours amie, on se voit régulièrement. Et par contre, en allant plus loin dans le processus à l'hôpital, en rencontrant les sages-femmes, en discutant avec elles, je me suis rendu compte qu'il y avait une distance entre ce que moi je voulais et ce qu'on allait me proposer, en fait.
D'accord.
Et ça, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Parallèlement, en fait, j'avais aussi démarré des cours d'hypnonaissance.
Ouais.
Alors l'hypnonaissance, c'est à la fois de l'hypnose et de la relaxation, donc c'est une sorte de préparation en fait à l'accouchement que tu fais assez en amont. Ça se fait à deux, ça se fait en couple, donc c'est génial parce que ça nous a permis avec mon compagnon d'aborder des sujets qu'on n'aurait pas abordés naturellement, donc on en discutait, on nous interrogeait sur notre façon justement d'aborder cette maternité, d'aborder l'enfant, on répondait par des dessins et après on en parlait ensemble. Il y avait aussi beaucoup de relaxation, il y a aussi des techniques d'hypnose qu'on a développées tous les deux. Et donc le fait de faire cette préparation à l'accouchement en hypnonaissance m'a aussi guidée vers enfin je trouve que ça allait de pair avec un accouchement plus naturel. C'est vrai que souvent les gens qui font cette préparation c'est pour pouvoir accoucher pleinement, enfin je veux dire sans péridurale, pour pouvoir ressentir en fait le moment de l'accouchement et pouvoir je dis le vivre pleinement, enfin c'est pas qu'on le vit pas pleinement quand on fait une péridurale, mais je pense que c'est différent, enfin ah, c'est oui. Vrai que
je confirme.
disons qu'on est en pleine possession de son corps avant et après, et moi ce qui me faisait très peur c'est de ne pas être en possession de mon corps et voilà, et d'être qu'on me mette une dose de péridurale très forte, d'avoir du mal à me remettre, enfin que mon corps ait du mal aussi à s'en remettre. Et puis j'avais envie de sentir chaque moment, j'avais voilà, donc tout ça pour te dire que je me suis rendu compte que la structure dans laquelle j'étais et dans laquelle je suivais ma préparation à l'accouchement classique n'allait pas me permettre d'accoucher comme je le souhaitais.
Qu'est-ce qui bloquait avec cet instinct?
Typiquement, en fait, quand tu leur demandes si tu vas pouvoir accoucher dans une autre position que allongée sur le dos, on te dit que non. Est-ce que je pourrais boire pendant mon accouchement? Non. Est-ce que je pourrais éventuellement écouter un peu de musique pour me détendre? Non, c'est pas possible. En fait, voilà, je me rappelle, il y a eu vraiment un rendez-vous avec une sage-femme, et quand je suis sortie de ce rendez-vous, on était avec mon compagnon, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. c'est pas du tout comme je l'imaginais. Enfin, donc, ça ne va pas fonctionner. Donc là, j'ai commencé à chercher des alternatives. Et justement, c'est par la personne qui me faisait cette préparation en hypnodescence que j'ai eu connaissance de ce groupe de sages-femmes qui prépare à l'accouchement naturel. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de rencontrer la sage-femme qui va te faire accoucher. Elle accepte de te suivre pendant ta grossesse. Alors moi, ça n'a pas été très long parce qu'on s'est rencontrés finalement assez tard. Je me rappelle plus exactement, peut-être deux mois avant l'accouchement, quelque chose comme ça, deux, trois mois avant. Tu prends contact avec cette personne et tu es à peu près sûr que c'est elle qui te fera accoucher, sauf si tu n'accouches pas dans le délai qui était prévu et qu'elle est partie en vacances. Mais c'est un truc assez incroyable parce que c'est vrai qu'en général, quand tu vas à l'hôpital, tu sais pas non plus qui va t'accoucher. Qui va D'ailleurs, je déteste cette expression qui va t'aider en fait à accoucher. Alors que là, t'as eu le temps de nouer une relation avec cette personne. Il y a une confiance en fait qui s'instaure. Il y a aussi, je dirais, une proximité parce que, je veux dire, l'accouchement c'est quand même quelque chose de très intime. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose de plus intime pour une femme. J'avais entendu beaucoup de femmes qui racontaient leur accouchement où elles te disaient qu'il y avait 15 personnes qui passaient dans la salle, qu'on te regardait dans tous les sens. Je passe les détails pas très agréables. Alors que là, cette femme, je la connaissais, je l'ai rencontrée, la confiance était vraiment instaurée. Et il y avait vraiment un respect en fait. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette relation qu'on a eue, c'est le respect qu'elle avait pour moi et pour mon corps, et surtout pour la façon dont j'avais imaginé l'accouchement. En fait, j'ai écrit comme un petit une espèce de lettre un peu petit idéal de la façon dont je voudrais accoucher, et franchement, j'ai eu la chance de pouvoir avoir l'accouchement que je souhaitais et dont j'avais rêvé.
Et alors, comment ça s'est passé ? Est-ce que ce fut extrêmement douloureux ?
Alors, c'est marrant parce que je me souviens quelques heures ou quelques jours après l'accouchement, quand on a reparlé avec la sage-femme, elle m'a dit « Et alors, donc, si jamais t'as un deuxième enfant, tu le referas de la même façon ?» J'ai dit « Non !» sur le coup. Mais aujourd'hui, je te dirais « Oui !» Non, mais parce que je pense que sur le coup, forcément, c'est quelque chose de tellement intense, en fait. Intense de... Enfin, sur tous les points. C'est-à-dire à la fois sur le plan émotionnel et sur le plan physique. Moi, il y avait quelque chose qui était très important pour moi aussi dans cet accouchement, c'était que mon compagnon soit partie prenante. C'est marrant parce que, tu vois, tout à l'heure, j'y pensais, je te parlais de cette indépendance que j'avais mise dans ma vie depuis le début de ma vie. Et là, vraiment, pour moi, c'était primordial qu'on puisse vivre ce moment à deux, mais pas juste qu'ils me regardent en train d'accoucher, qu'ils soient vraiment partie prenante. Et ça, c'est un truc, tu vois, même quand je te le dis, c'est émotionnellement, ça me touche parce que il a été là, il m'a tenue, c'était juste incroyable, mais vraiment jusqu'au bout, quoi, jusqu'au moment où l'enfant est sorti de moi. Ouais. Je me rappelle parce que j'étais par terre, en fait, j'ai accouché par terre, vraiment, c'était un truc de fou. est-ce que ça fait mal ? Je le dirais pas comme ça, en fait, c'est. Il y a une douleur, mais avec l'hypnonaissance, on avait mis en place des techniques d'hypnose qui étaient vraiment très efficaces. Notamment le fait que, et ça c'est juste, c'est comme quelque chose de magique, mais en fait il me touchait l'épaule, on l'avait travaillé, hein, c'est quelque chose que tu travailles au fil du temps, il me touchait l'épaule, et quand il me touchait l'épaule, la douleur...
Donc ton chéri quand il te
touchait l'épaule. Oui, exactement. La douleur s'évanouissait totalement, mais quasi instantanément. C'était quelque chose de fou. Donc c'est vraiment extrêmement efficace. En fait, c'est une détente complète. Hein. C'est pas que la douleur s'en va, c'est qu'en fait souvent on te dit que la douleur vient du fait que t'es complètement contracté. Et ce qu'on t'apprend avec l'hypnodescence pendant ces mois de préparation, c'est à te décontracter. Donc tu écoutes aussi beaucoup des enregistrements pour te dire que l'accouchement, parce qu'en fait que l'accouchement c'est quelque chose de naturel, que c'est quelque chose qui va bien se passer, parce qu'en fait on a un imaginaire autour de l'accouchement qui est assez négatif, ou en tout cas qui fait peur, si tu veux. En fait les seules paroles qu'on nous qu'on entend, en tout cas en Europe, je sais pas, peut-être que dans d'autres cultures c'est différent, mais c'est les douleurs de l'accouchement. Et en fait, toute cette préparation à l'hypnonaissance te permet de reconnecter ton cerveau autrement, si tu veux, pour voir les choses d'une façon positive et pour les vivre en oubliant la douleur. Voilà. Puisqu'il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur, c'est ce qu'on te dit. C'est que la douleur vient de la contraction. Donc si t'es décontracté, ça fait pas mal. Mmh. Bon, alors moi, j'étais pas complètement décontractée. Hein. Il y a quand même un peu de contraction. Mais franchement, ça s'est super bien passé. Et puis, juste pour finir, enfin, ce moment intense, le moment où on te... Enfin, de toute façon, je pense que c'est tous les accouchements pareils, mais quand on te pose l'enfant sur toi, c'est... c'est juste dingue.
Et donc un petit garçon
et l'avantage aussi c'est que quand t'accouches comme ça en fait ton enfant tu le gardes près de toi tout de suite. Ça on m'avait dit aussi que dans les accouchements plus classiques c'était pas toujours possible, mais parce qu'on te le prend pour aller le nettoyer etc. Moi je l'ai gardé beaucoup sur moi en fait au début, on me l'a mis au sein et donc ça permet aussi de créer ce lien dès le début. C'est vrai que ce moment avec l'enfant et le papa hein, qui est quand même là aussi, c'est génial de pouvoir avoir ça. Et puis, il y a un accouchement en musique, hein, aussi.
Ah oui, t'as choisi quoi comme musique ?
On avait fait toute une playlist que j'avais préparée longtemps à l'avance. J'avais vraiment fait une playlist pour la descente de l'enfant dans le bassin. Enfin, j'avais choisi des musiques qui étaient censées m'accompagner, des musiques qui me permettaient de me concentrer, ou des musiques beaucoup plus joyeuses pour le moment où il allait naître. Enfin, j'avais vraiment préparé ça, ouais.
Et alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman, une fois rentrée à la maison ?
Alors, on peut peut-être parler de la période un tout petit peu avant, à la maternité, où là, par contre, ça n'a pas été génial. Moi, je voulais allaiter mon bébé, et ça a été une catastrophe absolue. Ouais. Ça a été très, très difficile. Donc la partie allaitement, pour moi, n'a pas du tout été naturelle. Par contre, le lien avec l'enfant, en fait, le lien de mère, il a été, lui, totalement naturel. Donc il y a eu ces deux aspects-là, parce que, en plus, moi, je me suis un peu entêtée, parce que je voulais tout faire bien, en fait. C'est ça, tu sais, c'est ton premier, ce sera peut-être ton dernier, donc tu te dis, il faut vraiment que ce soit... Enfin, moi, je m'étais fait une image, donc j'avais envie absolument d'allaiter, j'avais envie que ça se passe bien. Bon, bah ça s'est pas du tout bien passé, ça a été la cata, ça marchait pas, j'avais mal, j'avais pas assez de lait, il grossissait pas, donc c'est vrai qu'à la maternité on m'a mis une pression de malade, du coup ça a été beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, voilà, j'ai vite switché sur un allaitement mixte et puis après je suis passée un peu après au biberon à 100%, mais sinon le lien avec l'enfant, je me suis jamais posé de questions en fait, c'est-à-dire que ça a été totalement naturel du début jusqu'à aujourd'hui, et ça c'est vrai que c'est peut-être quelque chose, je pense, qui est dû à l'âge entre guillemets, je vais faire vieille quand je dis ça, mais je pense qu'avoir un enfant tardivement, tu te poses, enfin moi je me suis pas posé de questions, je veux pas faire de généralité, mais tout est naturel pour moi, je me suis jamais inquiétée pour mon bébé, j'ai l'impression qu'il y a un lien naturel entre nous. S'il est malade, je sais si c'est potentiellement grave ou pas, si je dois l'emmener chez mon pédiatre ou pas. C'est quelque chose que je sens et j'ai jamais eu d'inquiétude pour lui. C'est comme si... je sais pas, c'est peut-être le... C'est comme si c'est la chair de ma chair, du coup. Voilà, mais... je sais pas si c'est lié à l'âge ou si c'est lié à une question de personnalité, parce que en même temps, moi, je suis pas forcément quelqu'un d'hyper détendu pour tout, mais pour ça, en tout cas, j'ai jamais eu d'angoisse ou de... Voilà.
Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, du coup, la maternité ?
Ça a changé que j'ai beaucoup moins de temps pour moi. Alors là, tu vois, je vais te parler sans filtre, parce que c'est ça qui est bien dans ton podcast, c'est qu'on parle sans filtre. Ce qui est très dur à vivre quand on a un enfant tard comme ça dans sa vie, en fait, c'est que c'est un bouleversement. Alors tu me diras, c'est un bouleversement pour tout le monde, mais Moi, j'avais tellement installé des choses dans ma vie, enfin, tu vois...
Parce que t'as quitté ton boulot aussi en...
Oui, ça a été le bouleversement total, total. Donc, j'ai quitté mon travail à la fin de mon congé maternité. J'ai décidé de partir de mon entreprise. D'abord, je voulais du temps pour m'occuper de mon enfant. Là encore, je me disais que voilà, c'était peut-être l'occasion unique et qu'il fallait que je passe du temps avec lui et que je lui... Voilà, donc j'ai jusqu'au mois de... Tu vois, il est né au mois de novembre et jusqu'au mois de juillet, enfin, je m'en suis occupée à plein temps. J'avais cette chance aussi, hein, c'était le moment rêvé puisque je venais de partir de mon travail, donc voilà, c'était une opportunité. En tout cas, je l'ai vécu comme ça. Donc oui, ce que ça a changé, c'est que j'ai beaucoup moins de temps pour moi, donc ça, c'est un peu sans filtre. Alors mon compagnon a souvent tendance à me dire que c'est très égoïste comme façon de parler, mais pour moi, là, c'est une vraie difficulté que j'ai à vivre dans ma vie quotidienne. C'est que bah, j'ai vécu 40 ans à ne m'occuper que de moi, quasiment, et aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à concilier en fait, les deux. C'est très compliqué pour moi. J'ai l'impression que ça allait moins pour mon compagnon, alors je sais pas pourquoi, peut-être qu'il est mieux organisé, mais moi j'ai du mal, et je le dis ouvertement, et c'est pas être égoïste que de dire ça, c'est juste, ben voilà, il faut changer totalement sa vie, et c'est pas facile au quotidien. Donc j'ai la chance d'avoir aussi... quitter mon job qui était extrêmement prenant pour me lancer dans une activité professionnelle indépendante puisque je suis devenue entrepreneur, je suis en train de monter ma marque. Du coup, c'est vrai que je peux organiser mon temps de façon plus facile que si j'étais dans une entreprise classique. Mais en même temps, le fait de lancer une activité est très chronophage et te demande vraiment de t'impliquer à fond dans ton lancement. Et du coup, bah, c'est vrai que là, actuellement, je ne suis pas totalement satisfaite de la façon dont je gère à la fois la coïncidence entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Mais bon, ça, je pense qu'il faut... C'est des choses aussi qu'on va... Il faut que j'arrive à trouver un rythme dans le futur.
Tu comprends mieux les mamans qui partaient tôt.
Ah bah oui, là maintenant...
Tôt. Tu mets des énormes guillemets parce que...
Je comprends beaucoup mieux les mamans qui sont pas là quand leurs enfants sont malades, qui partent du bureau, effectivement, plus tôt le soir. Et je comprends aussi les femmes qui se consacrent à leurs enfants. Et je suis hyper admirative maintenant des mères qui ne font que ça. Parce que moi, j'en serais incapable. Je trouve ça très difficile. C'est vrai que je me suis occupée à plein temps de mon fils. C'est les 6 premiers mois de sa vie. Et franchement, j'ai trouvé ça dur, je le dis. c'est un travail à part entière. Ça n'est pas quelque chose de... Je pense que c'est plus difficile que d'aller au travail. Donc je suis extrêmement admirative de ces femmes. Et aujourd'hui, quand une femme me dit qu'elle a 3 ou 4 enfants, mais je la regarde et je me dis, mais oh là là, mais elle est ultra courageuse, je l'admire. Des choses que, par le passé, tu ne m'aurais jamais entendu dire. Donc mon regard a beaucoup changé, effectivement.
Et est-ce que tu as déjà regretté d'avoir attendu si longtemps, finalement, pour avoir...
J'ai pas de regrets parce que en fait ma philosophie de la vie a pas mal changé aussi et je me dis que si je l'ai eu à ce moment-là, c'est parce qu'il devait arriver à ce moment-là. Donc ça m'a permis de vivre moi ma vie pleinement jusqu'à ce qu'il arrive, de faire plein de choses que j'aurais sûrement peut-être pas pu faire, ou en tout cas que j'aurais pas pu faire de la même façon. Ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de développer des activités à côté. Mais j'ai jamais eu aucun regret. Et je pense qu'il faut pas, d'une façon générale, dans la vie, il faut jamais avoir de regrets. Enfin, je suis aujourd'hui dans une philosophie de vie où je me dis que la vie t'apporte ce qu'elle doit t'apporter au bon moment. Et je pense ça pour tous les aspects de ma vie, aussi bien personnel ou professionnel. Et du coup, non, je n'ai aucun regret. Et au contraire, je pense que ça... ça amènera d'autres choses à mon fils. Voilà, il apprendra peut-être d'autres choses. Il aura une mère avec plus d'expérience. Comme je te disais, une mère moins angoissée. Donc, pour lui, ça lui apportera d'autres choses. Après, le seul petit regret, si j'en ai un petit, c'est que souvent, je me dis alors... c'est vrai que souvent, en fait, j'ai encore ce réflexe de demander l'âge auquel les mères ont eu leurs enfants. Et souvent, enfin, j'ai ce truc de me comparer en fait dans la tête et de me dire, ah oui, elle l'a eu à 32, moi je l'ai eu à 40. Alors quand mon fils aura 10 ans, moi j'aurai 50 ans. Mais après, tu sais, je crois que tout est une question aussi d'énergie qu'on a. Le fait de l'avoir plus tard, ça te maintient aussi en forme. Enfin voilà, je pense que ça te rajeunit aussi hein, d'une certaine façon. Même si ça te crève, mais ça te rajeunit.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Eh bien, je dirais que c'est être une maman à plat. C'est-à-dire que depuis que j'ai un enfant, je vis en chaussures plates et en basket, alors qu'avant, tu ne m'aurais jamais vue avec autre chose au pied que des talons. Mais comme je suis toujours en train de courir, de marcher partout, de prendre le métro avec une poussette, les joies de la vie parisienne avec un enfant et un bébé, oui, voilà, cette chaîne de maman, toujours stylée, évidemment, mais à plat.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Paris ?
Alors, avec mes copines de maternité, on allait souvent chez Mobili avant d'avoir nos bébés et après. C'est un endroit très sympa dans le 15e arrondissement, qui est à la fois un café, une boutique de perdition, on a envie de tout acheter, et où il y a plein d'ateliers aussi, des ateliers massage, des ateliers musique. Donc, c'est un petit café avec des bonnes pâtisseries. Donc, c'est un endroit vraiment très sympa. Donc, on avait l'habitude d'y aller un petit peu moins maintenant. Et ça nous arrive de nous y retrouver.
Et quels sont tes projets pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors, mes projets, alors pour moi, c'est, comme je te disais tout à l'heure, ma marque que je suis en train de lancer, tout juste, là, donc Bonne Famille, c'est qui est une marque de vêtements pour toute la famille, les adultes, les enfants. Donc, c'est une marque que j'ai lancée suite à cette grossesse qui a été vraiment un bouleversement dans ma vie. Donc, ça, c'est mon actualité professionnelle.
Qu'est-ce que tu proposes avec...
Alors, en fait, pour le moment, je propose une gamme de sweatshirts pour toute la famille. Et à terme, je vais proposer d'autres vêtements, comme des t-shirts, des polos, des accessoires, et aussi des objets pour la vie quotidienne. Ce serait une marque vraiment lifestyle. Et donc, d'un point de vue personnel, on a un petit voyage à deux... avec mon compagnon, parce que c'est important aussi de se retrouver de temps en temps. Donc on partira aux États-Unis retrouver une autre amie qui habite à Chicago pour quelques jours. Donc là, je suis hyper contente. Ça fait aussi très longtemps qu'on y pense. Et puis avec mon petit bébé, je l'appelle mon bébé, mais il a 2 ans et demi, il faut que j'arrête de dire ça.
Jusqu'à ses 18 ans.
C'est ça. Eh bien, c'est continuer à vivre pleinement notre quotidien et à passer de bons moments ensemble. Voilà.
Merci beaucoup, Sophie.
Merci, Shaïd.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur votre application iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Sophie, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 17 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.